Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 2 septembre, nous reviendrons sur l'abandon du projet Ronergia. L'affaire Cochet sera tranchée le 11 décembre. Anticor dans la tourmente, en l'absence de renouvellement de son agrément. Premier bilan du tourisme à Lyon cet été. La rentrée pour BFM Lyon qui fête ses 5 ans avec notre invité Élodie Poyade. Et puis les principaux résultats de sport du week-end.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le projet Ronergia visait à construire un barrage d'ici 2033 à une quarantaine de kilomètres en amont de Lyon. Un projet très controversé. Les opposants estimaient que le coût financier et environnemental du barrage était trop important par rapport à l'énergie décarbonée qu'il pourrait produire. L'État a mis un terme à ce projet de barrage sur l'une des dernières zones sauvages du Rhône. Mais les opposants restent vigilants. La CNR annonce en effet une nouvelle phase de discussion avec l'État pour, je cite, identifier des projets alternatifs en lien avec le Rhône. Près de 90 personnes, des proches et des inconnus, se sont rassemblés samedi à 17h sur le quai Joffre, à l'endroit même où Iris et Warren ont été tués à trottinette par un ambulancier il y a tout juste 2 ans. Des ballons blancs ont été lâchés au cours de ce rassemblement en hommage aux 2 jeunes ados. Le tribunal de Paris tranchera le 11 décembre à 9h dans l'affaire des époux Cochet. Le couple est poursuivi pour détournement de fonds publics. Les 250 mails censés apporter la preuve d'un travail effectif de Laetitia Cochet de 2009 à 2017 auprès de son mari et député Philippe Cochet n'ont pas convaincu. Le parquet national financier a demandé la condamnation de Philippe Cochet et de son épouse à respectivement 3 ans et 18 mois d'emprisonnement avec sursis. Une peine complémentaire de 5 ans d'inéligibilité a également été réclamée par le PNF. Anticor avait initié la procédure dans l'affaire de détournement de fonds publics des époux Cochet en déposant plainte en 2021. Cette association anticorruption, créée par Eric Alphen en 2003, est aujourd'hui dans la tourmente en l'absence de renouvellement de son agrément. Bonjour Pauline Matveff.
Bonjour.
Co-référente du groupe local d'Anticor, le groupe de Lyon. Rappelez-nous d'abord les missions d'Anticor.
Alors Anticor est une association contre la corruption et pour l'éthique en politique. Les deux versants de cette phrase sont importants. À la fois de lutter contre les pratiques irrespectueuses de la probité publique et à la fois de promouvoir les gens qui font bien et d'essayer de diffuser une culture de l'éthique parmi nos villes.
Vous essayez d'obtenir quoi ? Des engagements de la part des élus, mais ensuite vous êtes aussi quelque part observateur de leurs pratiques ?
Pendant les périodes électorales notamment, on va proposer en général des propositions éthiques qu'on invite les candidats à intégrer dans leur programme. Alors on leur fait pas signer de charte d'engagement envers Anticor, ils s'engagent envers les électeurs, mais en tous les cas on est force de proposition sur les façons d'améliorer la probité publique et la façon d'exercer son mandat de façon éthique, que ce soit à l'échelon local, pour un maire, pour les conseillers départementaux, les régions, les élections nationales avec les législatives par exemple, et aussi au niveau européen. À chaque fois on est force de proposition sur ces questions-là au niveau national, et au niveau local du coup on suit un peu plus la façon dont nos candidats locaux s'engagent sur ces questions-là. Effectivement, on fait un peu de prévention en amont.
La corruption en France, on a l'impression que la corruption, c'est pour des pays un peu éloignés, qui sont pas forcément dans un esprit très démocratique. En France, la corruption, ça existe encore ?
Bien sûr, non seulement ça existe encore, mais elle est multiforme. Elle existe évidemment moins que dans des pays qui ont des taux de corruption extrêmement élevés. On a une ONG qui s'appelle Transparency International qui fait un index chaque année des différents pays et de leur position par rapport à la perception de la corruption, parce qu'évidemment, c'est un phénomène caché dont on n'a pas de données particulièrement précises. La France est 21e, donc sur 180, c'est bien par rapport à d'autres. En revanche, si on regarde son classement au niveau du PIB et de sa puissance économique, on est moins bon que d'autres qui sont devant nous, notamment les pays nordiques, par exemple. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va avoir le même type de corruption. On a beaucoup moins en France tout ce qu'on peut avoir de bacchiche dans les rues auprès des officiers publics, on va dire, qui sont face à du public. Ça, c'est des choses qui sont plus rares. En revanche, on a de la corruption en col blanc qui est un peu plus développée que dans d'autres pays. Ouais.
Sur combien de dossiers vous êtes intervenu, par exemple, à Lyon ? Est-ce que vous avez des exemples à nous citer ?
Oui, bien sûr. Bah, à Lyon, on travaille sur une moyenne de plusieurs signalements par semaine que nous font les citoyens et ou qu'on déduit, nous, d'articles qui paraissent dans la presse locale. Ce n'est pas forcément des signalements de faits qui vont mener quelque part, donc c'est des choses qu'on va étudier. On va regarder, on a des bénévoles qui regardent ça à travers des critères de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est une corruption publique, est-ce que c'est une corruption privée, est-ce qu'on peut le prouver, est-ce que c'est bien dans le champ d'application, champ de travail d'Anticorps, hein, qui est limité aux atteintes à la probité, hein, donc corruption, détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêts. On a un secteur bien défini et on travaille du coup sur des questions d'urbanisme, par exemple. On travaille, quand on a relancé le groupe local en 2020, on a travaillé sur les époux cochers, un signalement qui s'est transformé du coup en plainte au national et qui est en ce moment en train d'être examiné par le tribunal correctionnel après l'enquête du PNF. Donc on travaille sur des éléments. On a demandé il n'y a pas longtemps des nouvelles de plusieurs de nos signalements au parquet de Lyon, qui nous a dit avoir ouvert des enquêtes. Donc quand on fait un signalement, c'est que c'est quelque chose de concret qu'on a pu vérifier nous. On n'est pas des journalistes, on n'est pas des enquêteurs, mais il y a plein de documents publics qui permettent de mettre en évidence des pratiques qui nous paraissent pas légitimes. Le travail d'Anticorps, c'est bien évidemment, on punit personne, on n'est pas là, on n'est pas le juge, on n'est pas la police. En revanche, on se permet d'avertir la justice pour qu'elle fasse son travail et qu'elle voit s'il y a un intérêt à mobiliser la force publique sur les faits avérés.
Vous avez manifesté à Lyon ce dimanche car votre agrément a été annulé. De quoi parle-t-on ? À quoi ça sert un agrément et notamment pour Anticorps ?
L'agrément, c'est une autorisation qui est donnée par le ministre de la Justice en temps normal, mais là, comme on a un sujet avec M. Dupond-Moretti, ce serait éventuellement donné par M. Attal. Et donc, l'agrément, ça sert à permettre à l'association de se porter partie civile, ce qui veut dire représenter les victimes de la corruption vis-à-vis des tribunaux. Ça permet de représenter les victimes et donc les citoyens. Nous sommes tous victimes de la corruption puisque c'est notre argent, en fait, ou notre intérêt. Il ne s'agit pas toujours d'argent. Des fois, c'est juste un intérêt privé qui passe devant un intérêt public. Et donc, du coup, nous qui représentons l'intérêt public, on en subit les conséquences avec des services publics dégradés, etc. Et donc l'agrément permet à la fois de faire rentrer les citoyens dans les prétoires et de porter une parole citoyenne, et également quelque chose d'extrêmement important et la première raison pour laquelle on se bat autant pour cet agrément, il nous permet de saisir un juge d'instruction indépendant, puisque quand on se constitue partie civile, on transfère en quelque sorte le dossier du bureau du procureur qui est hiérarchiquement soumis au ministère de la Justice, c'est-à-dire que sa carrière dépend du ministère de la Justice, à un juge d'instruction qui lui ne dépend pas du pouvoir politique pour sa carrière ni pour sa nomination ni pour rien du tout, et qui donc a l'opportunité de regarder juste les faits, le droit, et savoir s'il y a quelque chose à poursuivre ou pas, alors que le procureur peut subir parfois des pressions pour en tirer des dossiers. Donc nous, ça nous permet très concrètement d'éviter que des dossiers un peu trop politiques ou un peu trop proches de personnes qui sont au pouvoir soient enterrés pour des mauvaises raisons. Évidemment, quand il n'y a pas d'éléments probants, etc., bon, là, c'est une autre raison de finir un dossier, mais c'est une raison tout à fait valide. On essaye d'éviter que des dossiers sur lesquels les questions d'éthique soient enterrés pour de mauvaises raisons. Et donc cet agrément, puisqu'on ne l'a plus, donc il nous a été donné de façon très mal rédigée par M. Castex en 2021, et donc il nous a été retiré par la justice administrative qui a constaté cette mauvaise rédaction en 2023. Et depuis, les deux demandes que nous avons faites, donc une auprès d'Elisabeth Borne, à laquelle elle n'a pas répondu, et une auprès de M. Attal, à laquelle il n'a pas répondu non plus. Donc ils ont prorogé les délais dans les deux cas, en disant on a besoin de temps pour étudier le dossier, pour à la fin finalement ne pas répondre. Donc c'est un peu, comme il a été dit récemment, une espèce de stratégie du pourrissement. Et du coup, nous, on nous empêche d'agir, on nous empêche de porter la parole citoyenne dans les tribunaux, alors que on nous reproche rien finalement. À aucun moment, ni Madame Borne ni Monsieur Attal ne sont fendus d'un arrêté ou d'un décret, excusez-moi, pour expliquer les raisons pour lesquelles ils refusent de donner un élément Anticorps. Donc, ce sont des refus tacites. Simplement, la date fatidique arrive à laquelle ils devraient nous donner quelque chose et ils ne répondent plus.
Tous les partis vous apportent leur soutien. Si on regarde un peu sur Internet, là, sur les réseaux sociaux, là, on prend un peu la température. Tous les partis vous soutiennent. Qu'est-ce qui bloque finalement ?
Je ne sais pas si tous les partis nous soutiennent. J'ai pas eu de communication directe d'aucun parti à ce sujet, mais effectivement, tous les partis qui sont en faveur de l'éthique en politique devraient nous soutenir. Et Anticorps est une association transpartisane, ni de gauche, ni de droite, ni rouge, ni vert, ni bleu, ni rien du tout. On accueille tous les gens élus ou citoyens qui souhaitent se positionner pour plus d'éthique en politique. Qu'est-ce qui bloque ? C'est une bonne question qu'il faudrait poser à M. Attal. Nous avons saisi le tribunal administratif en référé à Paris. Le tribunal administratif a produit une injonction pour le Premier ministre de nous donner une réponse, ce à quoi il s'est soustrait. Donc même le juge, quand il demande au Premier ministre des explications, soit il nous donne un agrément, soit il nous dit pourquoi il ne nous donne pas, mais il ne peut pas se prolonger le silence. Donc maintenant, c'est même illégal, puisqu'il n'a pas répondu à l'injonction du tribunal. Donc qu'est-ce qui bloque ? On aimerait bien savoir. On suppose que c'est une question politique, évidemment.
Merci Pauline Matveff, co-référente du groupe local Lyon d'Anticorps. Et bien sûr, on se tient au courant à propos de ce combat.
Merci à vous.
L'Office de tourisme tire un premier bilan encourageant de la fréquentation estivale à Lyon. Un été marqué par l'accueil de 11 matchs de foot des JO à Décines. Only Lyon souligne une hausse de 10% des visiteurs, ce sont les passages au pavillon d'accueil, et un taux d'occupation en juillet de plus de 70%. À noter aussi une affluence notable des touristes étrangers à Lyon, représentant 50% des voyageurs cette saison, ce qui a contribué à l'allongement des séjours. Les ventes du pass culture et loisirs affichent une hausse de 23% pour la Lyon City Card 3 jours, 36% pour la version 4 jours. L'office de tourisme note aussi une augmentation de 7% de la participation à ces visites guidées.
Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
Ce lundi, c'est la rentrée, rentrée des classes, retour du travail pour certains et certaines d'entre vous, rentrée médiatique aussi, notamment pour BFM Lyon. Bonjour Élodie Poyade.
Bonjour Gérald.
Vous présentez Bonsoir Lyon, la tranche info 17h-19h, du lundi au vendredi. Nouvelle saison, nouvelles ambitions également pour BFM Lyon.
Oui, évidemment, c'est la sixième rentrée pour BFM Lyon. On fête nos 5 ans ce mardi, le 3 septembre, c'était le lancement 2019 de BFM Lyon. Et évidemment, comme chaque début de saison, des nouveaux objectifs, des nouveaux enjeux. On essaye de proposer aussi des nouveautés aux téléspectateurs pour essayer de se réinventer.
BFM Région est présent maintenant à Paris, à Lille, à Marseille, à Nice, à Gap, en Alsace, en Normandie, j'en oublie certainement, il y en a une dizaine, mais aussi à Lyon, bien entendu. Alors, depuis 5 ans, comment justement on fait évoluer un petit peu cette chaîne locale ?
On a évolué en se développant, en essayant de se rapprocher au plus des habitants, des Lyonnais et des Lyonnaises évidemment, mais d'essayer de couvrir aussi au maximum tout le territoire, le département du Rhône, d'aller au plus près des gens, d'adapter nos formats aussi en inventant des nouveaux contenus, notamment avec les magazines thématiques qu'on a le soir dans la tranche Bonsoir Lyon, où chaque soir on propose une thématique différente aux téléspectateurs, essayer de toucher le plus de sujets possibles pour pouvoir attirer tout le monde et que tout le monde s'y retrouve en venant sur BFM Lyon sans avoir trop d'effets de répétition non plus, d'essayer de proposer sur une heure complète de tranche de direct des rendez-vous différents.
J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus la marque BFM Lyon sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un peu les délocalisations dans notre métier. C'est quelque chose que vous multipliez aujourd'hui ?
Ouais, c'est une vraie volonté de la direction et de toute la rédaction d'être présent sur le terrain. Alors évidemment, ça passe par la visibilité lors de partenariats événements, mais aussi de nous sortir un peu des studios, que ce soit la matinale avec Aline Picard, Bonjour Lyon, ou sur le Bonsoir Lyon, même sur le 12-17 avec Victoria Solano. On essaye au maximum d'aller faire les émissions dehors, sur les événements, là où ça se passe. Là, pour la rentrée, par exemple, demain mardi, moi, Bonsoir Lyon va être délocalisé à Bellecour. On va faire 3 heures de direct pour faire vivre les 80 ans de la libération de Lyon aux Lyonnais, aux Lyonnaises qui pourront pas être présents à Bellecour. Et ça, c'est vraiment une vraie volonté d'être sur les événements, au plus près des événements, et de pouvoir faire vivre tout ça en étant vraiment sur place et en sortant un petit peu du plateau studio.
En dehors des rendez-vous info du matin, du soir, de l'après-midi, vous développez aussi des magazines thématiques, on l'a dit. Vous êtes à fond sur les JO paralympiques là, actuellement ?
Ouais, ça a été un vrai pari des BFM Région dès l'été dernier. On a voulu être aussi exister sur les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques. On savait que ça allait être un événement. Nous, à Lyon, on avait pour les Jeux Olympiques les 11 matchs de foot. Donc, dès la rentrée dernière, on a mis en place un magazine qui s'appelle J'aime mes jeux, qui est le mercredi à 17h45 et qu'on a gardé tout l'été. D'ailleurs, c'est le seul magazine thématique qui ne s'est pas arrêté pendant la grille d'été et qui se poursuit là jusqu'à la fin des jeux para pour voir suivre nos Lyonnais qui sont en compétition et qui vont nous ramener plein de médailles, on en est sûr.
Outre le sport, quels sont les sujets qui intéressent les Lyonnais pour justifier un magazine sur BFM Lyon ?
Je crois que les Lyonnais, comme n'importe qui aujourd'hui, ils ont envie que les thématiques soient abordées, le quotidien, les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et de leur vie en général. On le sent, ils nous demandent, ils veulent évidemment être informés de ce qui se passe en bas de la rue, mais aussi d'avoir les questions culture. C'est ce qu'on fait en fin de semaine pour savoir où sortir, que faire à Lyon. On a le magazine Planète Locale en partenariat justement cette année avec Lyon Demain sur les questions questions d'environnement. Et là, on voit qu'il y a une vraie envie, un vrai besoin de communiquer là-dessus. Il y a énormément d'initiatives qui sont faites sur l'agglomération lyonnaise. Et sur ce sujet-là, on a senti qu'on a créé Planète Locale, qu'il y avait une vraie demande des téléspectateurs. Il y a la gastronomie, parce qu'évidemment, on est à Lyon, on peut pas avoir une chaîne d'info locale sans avoir un rendez-vous gastronomie. Donc voilà, je pense que c'est ce qui fait la vie de chacun au quotidien, qu'on essaye de mettre à l'antenne sur ces rendez-vous thématiques pour qu'on se retrouve, qu'on se dise « Ah bah oui, bah tiens, moi, ah bah j'ai bien envie d'aller dans ce resto, ah bah ce week-end, je vais aller faire cette expo, et puis sur une initiative, ah bah il se passe ça dans mon quartier, ah bah pourquoi pas y aller, ça m'intéresse aussi, j'ai envie de m'intéresser à la vie de mon quartier, de faire évoluer mon quartier, et grâce à nous, bah ça donne des idées. »
Voilà, l'idée c'est de pas faire seulement une chaîne sur les drames, hein, c'est de faire quelque chose d'un peu plus positif aussi.
Exactement, on nous fait souvent le reproche sur les chaînes d'infos continu et c'est légitime. Oui, le journal, c'est pas toujours très gai les titres qu'on peut donner dans nos JT, les informations qu'on développe. Oui, effectivement, il y a des drames, il y a des faits divers, on les traite parce que c'est notre métier et que c'est aussi l'ADN d'une chaîne d'infos de traiter de ces sujets-là. Mais on ne fait pas que ça sur une chaîne d'info locale à BFM Lyon, c'est pas la ligne éditoriale, on n'est pas que sur les faits divers, on est sur ce qui fait l'actualité sur le territoire. Donc oui, des fois c'est pas très drôle, mais on en parle, et puis il y a des choses positives, il y a des initiatives,
il y a Planète Locale
aussi, voilà, il y a Planète Locale et le Feel Good a sa place aussi sur BFM Lyon.
Alors Planète Locale, on va pouvoir parler de quel type de sujet, donnez-nous quelques exemples, peut-être le sujet de ce soir.
Ce soir, on va être à la découverte, on en a invité pour la première un chef lyonnais qui est installé dans le 7e arrondissement, le chef du Tratino.
David Fontana.
David Fontana, exactement, qui met un point d'honneur à ne travailler que sur du circuit court avec des produits locaux. Sa carte n'est faite que sur le circuit court. C'était une volonté de sa part de montrer qu'on peut bien manger diversifié, mais tout en étant sur du circuit court. Donc c'est notre première invitée. On va évoquer aussi évidemment la convention citoyenne climat lancée par la métropole de Lyon, parce que ça aussi, ça va faire l'actualité des prochaines semaines et des prochains mois. Donc on verra ça avec vous, Gérald, puisque vous allez m'accompagner cette année dans cette émission.
Merci beaucoup, Élodie. Ça met l'eau à la bouche et on se donne rendez-vous. Alors, les heures de diffusion pour Planète Locale, on peut les rappeler ?
Il y a une petite subtilité. Pour les deux premiers lundis, là, le 3 et le 9 septembre, on se retrouve le lundi à 17h45. Et à partir de la semaine d'après, on passera en rendez-vous le mercredi, toujours le même horaire, 17h45, dans Bonsoir Lyon.
Merci Élodie Poyade.
Merci Gérald.
Le Beaujolais, les acteurs de la filière viticole sont tombés d'accord sur une même date de banc pour les rouges, les blancs et les rosés. Ce sera vendredi, donc le 6 septembre. L'Olympique Lyonnais a signé son premier succès en Ligue 1 vendredi contre Strasbourg, 4-3, avec notamment un doublé d'Orban. Les deux autres buts lyonnais sont signés Tolisso et Maitland-Niles. L'Olympique Lyonnais va de nouveau sentir le parfum de l'Europe dans quelques semaines. L'UEFA a dévoilé l'intégralité de la programmation de la phase de poule qui se déroulera jusqu'à fin janvier. Notez les matchs domicile, la réception de l'Olympiakos le jeudi 26 septembre, puis du Beşiktaş le 24 octobre, l'Entracht de Francfort le 12 décembre et Ludogorets pour conclure cette phase de poule le 30 janvier. Ce sont les matchs bien sûr à Décines. Football féminin, les Lyonnaises ont battu le CFF Madrid 2-0 pour leur premier match amical. CFF Madrid qui était 6e de la D1 espagnole la saison passée. C'était aussi le premier match pour le nouvel entraîneur, Joe Montemuro. Prochain rendez-vous pour l'OL féminin le 7 septembre à Bourgoin à 17h face à la Juventus de Turin. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.